Tous les jours, et par le monde, sont organisées au moins 100 000 funérailles. C'est sans compter tous ceux qui finissent, on ne sait trop où, sans tambour ni trompette. Nous vivons dans un immense cimetière et nous faisons partie d'un long cortège funèbre qui a commencé hors du jardin d'Éden et qui a traversé les siècles et les millénaires. La dame à la faux est insatiable. Elle en veut toujours plus. Je continue à lire dans le chapitre 30 des Proverbes. La sangsue a deux filles. Elles s'appellent Donne et Donne. Il y a trois choses insatiables, et même quatre qui ne disent jamais. Cela suffit. C'est le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais « cela suffit ». Proverbe 30, les versets 15 et 16, comparé avec Proverbe 27, verset 20. Ces proverbes numériques adressent les désirs inassouvis, une pensée qu'on retrouve dans le proverbe hindou. Le feu n'est jamais rassasié de bois, ni de fleuve l'océan, ni de vivant la mort, ni d'hommes les femmes aux beaux yeux. La sangsue représente l'avidité, la cupidité qui dit « j'en veux encore ». La femme stérile désire ardemment pouvoir tenir un bébé dans ses bras et être appelée maman. Dans les régions semi-arides, comme le Sahel, le soleil brûle tout et la terre craquelée est comme une énorme bouche béante qui mord de soif. Je continue le texte. Les yeux qui se moquent d'un père et qui dédaignent l'obéissance envers une mère sont crevés par les corbeaux de la vallée et dévoré par les petits de l'aigle. Proverbe 30, verset 17. Les Écritures prononcent des jugements terribles contre les enfants ignobles. Suite à une mort tragique à la fin d'une vie maudite, le cadavre de ce fils dénaturé n'aura pas de sépulture, ce qui, en Israël, est honteux. De plus, il sera exposé aux rapaces qui le déchicoteront. L'œil et le miroir est le symbole de l'âme, mais pour les charognards, c'est un morceau de choix. Je continue. Il y a trois choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même quatre que je ne comprends pas. La trace que suit l'aigle dans le ciel, celle du serpent sur le rocher, et celle du navire en haute mer, et celle de l'homme chez la jeune fille. Proverbe 30, versets 18 et 19. La même expression, chose merveilleuse, se trouve dans le psaume 139, les versets 13 à 15, qui célèbre la formation de l'enfant dans le ventre de sa mère. Ces quatre mouvements ont pour théâtre l'air, la terre, l'eau et les sentiments. Ils ne laissent aucune trace visible, durable, derrière eux. On a beau bien regarder l'aigle qui vole, et rien n'indique d'où il vient ni où il va. Il en est de même du serpent qui glisse sur le rocher et du navire dont le sillage disparaît promptement. Et quand des amoureux sont ensemble, ils semblent appartenir à une autre dimension, et les sentiments qu'ils éprouvent sont indescriptibles et invisibles. Je continue. Voici comment agit la femme adultère. Elle satisfait ses appétits, s'essuie la bouche et dit « je n'ai rien fait de mal ». Proverbe 30, verset 20. La femme séductrice utilise une façon imperceptible mais efficace de séduire les hommes. Proverbe 2, verset 16 à 18, 5, 1 à 14 et 7, 22 à 14, 23, 27, 28. Elle adopte une attitude très désinvolte à l'égard de l'adultère qu'elle considère seulement comme un repas. C'est un peu comme ça que, de nos jours, les gens voient l'acte sexuel. Il a perdu son mystère et le sens du sacré pour devenir une cuisine ordinaire et banale. Mais les Écritures condamnent fortement les relations sexuelles hors du mariage. Je continue. Il y a trois choses qui font trembler la terre, et même quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui devient roi, un insensé qui vit dans l'abondance, une femme odieuse qui trouve à se marier et une servante qui surplante sa maîtresse. Proverbe 30, versets 21 à 23. L'élévation soudaine de personnes inexpérimentées et non qualifiées à un haut statut est intolérable, car un tel bouleversement rompt l'ordre social. Un esclave qui devient roi commettra des bévues ou des actes répréhensibles pour se venger de son abaissement préalable. Un insensé rentier satisfera ses goûts vulgaires sans se soucier du pauvre. C'est ce qu'a fait le jeune homme riche de la parabole de Jésus, que nous rapporte Luc au chapitre 12, les versets 16 à 21. La femme odieuse et la servante deviennent toutes deux hautaines, égoïstes et provocantes dans leur nouvel état. Je continue avec une visite au zoo et à l'insectarium. Il y a quatre petits animaux sur la terre qui, pourtant, sont remplis de sagesse. La fourmi, qui forme un peuple faible, mais qui prépare leur nourriture pendant l'été. Les damans, qui n'ont guère de force, mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillon rangé. Et le lézard, qu'on attrape à la main et qui pénètre dans les palais des rois. Proverbe 30, les versets 24 à 28. Ces quatre petits animaux montrent que la faiblesse physique peut être compensée par d'autres moyens et que Dieu s'occupe du bien-être de toutes ses créatures. Les fourmis sont engourdies pendant l'hiver. Mais durant l'été, elles travaillent dur et de concert afin d'engranger au maximum de provisions pour la mauvaise saison. Un proverbe précédent dit « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. » Proverbe 6, les versets 6 à 8. Les fourmis illustrent l'ardeur au travail. Elles ne s'arrêtent jamais et comme porteurs, on ne peut pas mieux car elles ne reculent pas devant des charges trois fois plus grosses qu'elles. La fourmi est aussi un modèle de prévoyance. Elle enseigne que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préparer l'avenir. Cela veut dire s'assurer contre les aléas de l'existence et mettre de l'argent de côté pour les périodes de vaches maigres. Mais à un autre niveau, il est bien plus important d'assurer son avenir éternel, car une fois qu'on a franchi le grand passage, le temps n'existe plus et tout est figé à tout jamais. Il est trop tard pour changer sa destinée et aucune marche arrière n'est possible. Nous sommes ici-bas pour très peu de temps, mais nous serons dans l'au-delà pour toujours. La plus grande folie que quelqu'un puisse commettre est de bichonner son corps et de négliger son âme. Il est insensé de ne faire aucune préparation pour l'éternité. Sur son lit de mort, l'empereur romain Hadrien, 76 à 138, aurait dit « Plus de couronne pour ma tête !» Plus de beauté pour mes yeux, plus de musique pour mes oreilles et plus d'aliments pour mon estomac. Mais mon âme, que vas-tu devenir ? Le prophète Amos écrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » Amos 4, verset 12. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ?» Hébreux 9, verset 27. Gros, comme des lapins, les damans sont des mammifères aux poils longs, à la queue courte et aux oreilles arrondies. Ils font partie des animaux impurs qu'on ne doit pas consommer. Totalement sans défense, ils échappent aux prédateurs en se cachant dans les creux des rochers. Lévitique 15, verset 5, psaume 104, verset 18. Comme le daman, l'homme est faible et impur devant Dieu. C'est pour cela qu'il a besoin d'un sauveur et d'un refuge. Dans le psaume 31, David s'adresse à Dieu et dit « Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. » Psaume 31, verset 3. Bien qu'elle n'ait pas de chef, les sauterelles font bloc ensemble dans leur marche imperturbable. Méthodiques et disciplinées, on dirait qu'elles obéissent tous au même général invisible. Le prophète Joël écrit « Les voilà qui se précipitent comme de vrais guerriers et comme des soldats, escaladent la muraille, chacune va son chemin sans dévier de sa route. » Joël 2, verset 7. Comme les sauterelles, les croyants sont unis entre eux par le lien invisible du Saint-Esprit et ont un chef qu'ils ne voient pas, Jésus-Christ qui est dans les cieux et à qui ils doivent une allégeance totale. Le lézard est chétif et inoffensif, mais sa souplesse lui permet de s'introduire dans les plus petits interstices, dans les plus belles demeures, avec ses pattes qui, selon les espèces, sont munies de ventouses ou exhibent une substance collante. Il peut s'accrocher à n'importe quelle surface, sur une paroi lisse ou un plafond. Pareillement, la foi saisit, s'attache, se cramponne à Dieu et à ses promesses en toutes circonstances. Dans sa seconde épître à Timothée, l'apôtre Paul écrit « Je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » De Timothée 1, verset 12. Je continue le texte. Il y a trois choses qui ont une belle démarche et même quatre qui ont fière allure. Le lion, le plus brave des animaux, qui ne recule devant personne. Le cheval, aux reins solides. Le bouc et une armée en marche. Proverbe 30, les versets 29 à 31. Ces quatre choses contrastent avec les précédentes parce qu'elles ont belle allure et une apparence noble. Le lion a une prestance magnifique et parce qu'il n'apporte rien, on l'a surnommé le roi des animaux. Le prophète Ésaïe écrit « Lorsque le lion ou le petit du lion défend sa proie en rugissant, la foule des bergers appelée contre lui a beau pousser des cris, ils ne l'effraieront pas. Et leur tapage ne le troublera pas. » Ésaïe 31, verset 4. C'est une image du croyant idéal. Alors qu'il est persécuté à mort, l'apôtre Paul a dit « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. » Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24. Tout comme Bayard, Olivier Cromwell était un chevalier sans peur et sans reproche. On lui demande un jour l'origine de son courage. Il répond « J'ai appris que si vous avez une crainte respectueuse de Dieu, vous ne craignez aucun homme. » Le cheval a la courbe souple de ses flancs puissants et taillés pour la course. Il fait penser à un passage de l'Épître aux Hébreux où l'auteur dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Hébreux 12, verset 1er. Le bouc aime grimper sur les auteurs. Se comparant à lui, le prophète Habacuc dit « J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des boucs. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. » Habacuc 3, les versets 18 et 19. Je finis de lire le chapitre 30. Si tu as été assez fou pour te vanter, ou si tu as eu de mauvais desseins, tais-toi désormais. Car en battant la crème, on produit du beurre. En frappant le nez, on fait jaillir du sang. Et en laissant exploser sa colère, on provoque des disputes. Proverbe 30, les versets 32 et 33. Quand le mal est faite en parole. Il faut vite fermer son claquet avant que le ton monte et que la discussion s'envenime. Nous arrivons au dernier chapitre des Proverbes qui commence par une exhortation adressée à un jeune roi par sa mère, sans doute au moment de son couronnement. Elle lui fait 3 mises en garde principales relatives aux femmes, à l'alcool et à la justice. Je commence à le lire. Parole du roi Lemuel. Maxime que sa mère lui a enseigné. Quoi, mon fils ? Quoi, fils de mes entrailles ? Quoi, fils de mes vœux ? Proverbe 31, versets 1 et 2. On ne connaît aucun roi appelé Lemuel. C'est donc un terme d'affection qui veut dire « consacré à Dieu ». La reine-mère ne sait pas par où commencer parce qu'elle a tant de recommandations plus importantes les unes que les autres à faire à son fils, alors elle hésite. Il semble qu'elle ait fait un vœu concernant ce fils comme Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 1, verset 11. Je continue. « Ne gaspille pas tes forces avec les femmes, ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. » Proverbe 31, verset 3. Les harems royaux orientaux sont très bien fournis et ces femmes peuvent exercer une influence sur le roi et même le détourner de ses devoirs. C'est ce qui est arrivé à Salomon qui devient idolâtre. Je continue. Il ne convient pas au roi, Lemuel, non, il ne convient pas au roi de boire du vin, ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons enivrantes, car, après avoir bu, il pourrait oublier les lois et léser les droits des victimes de la misère. Proverbe 31, versets 4 et 5, comparé avec Ecclésiaste 10, versets 16 et 17, et Proverbe 20, versets 1er, 23, les versets 20 et 21, et chapitre 29, verset 35. L'alcool embrouille l'esprit, fait oublier la loi, ce qui risque de fausser le jugement du roi. Je continue. Que l'on donne plutôt les boissons enivrantes à ceux qui va périr. Et du vin à qui a le cœur malheureux. Qu'il boive et qu'il oublie sa misère, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Proverbe 31, les versets 6 et 7. Et dans le psaume 104, on lit « Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage. » Psaume 104, verset 15. Selon la tradition, les femmes de Jérusalem offraient des boissons fortes aux malheureux condamnés à mort. Marc 15, verset 23. Mais à cause de sa position, le roi ne doit jamais abuser d'alcool. Je continue. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts, défends les droits des malheureux et des pauvres. Proverbe 31, les versets 8 et 9. Le roi a pour devoir de défendre tous les démunis. La suite du chapitre est un poème alphabétique qui décrit les activités multiples et bénies de la femme attachée à ses devoirs d'épouse, de mère de famille et de maîtresse de maison. Je commence à lire. Heureux celui qui trouve une femme vertueuse, elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Proverbe 31, verset 10, comparé avec Ruth, chapitre 3, verset 11. La femme idéale est vaillante et un exemple dans tous les domaines. Elle s'active et couvre tous les fronts. Comme la sagesse, elle est plus précieuse que les perles de grand prix. Proverbe 2, verset 4. Je continue. Son mari a confiance en elle. Elle ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Proverbe 31, versets 11 et 12. Elle sait bien gérer les dépenses du ménage. Une telle femme constitue une bénédiction et une faveur de l'Éternel pour son mari. Proverbe 18, verset 22, 19, verset 14. Elle est vraiment sa moitié, son complément et son aide. Quand le Créateur a amené Ève à Adam, c'était aussi sa moitié. Je continue. Elle cherche avec soin du lin et de la laine, elle les travaille de ses mains joyeuses. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Proverbe 31, versets 13 et 14. Elle fait venir de l'étranger les matières premières et les denrées qui ne sont pas disponibles en Israël. Cette femme prend des initiatives et trouve un vrai plaisir dans son travail. Ruth chapitre 2, verset 19. Je continue. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger, et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Proverbe 31, verset 15. Elle est tôt levée parce que sa sphère d'activité est très étendue. Nous sommes à 100 lieues de la dégradation de la femme orientale que la polygamie réduit à un morceau de pain. Quand j'étais enfant, je ne crois pas m'être levée une seule fois à l'heure que ma mère était encore au lit. Elle était debout, de très bonne heure, pour organiser sa journée, et le petit déjeuner était toujours prêt. Et une fois que j'avais enfourché mon vélo pour aller à l'école, elle partait faire ses courses. Je continue. Elle pense à un champ, elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Proverbe 31, versets 16 et 17. Elle augmente le patrimoine familial par son courage et son esprit entreprenant. Je continue. Elle constate que ses affaires marchent bien. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Proverbe 31, verset 18. Chez les Hébreux, les Grecs et les Romains, le foyer doit brûler toute la nuit car c'est une preuve de vie et de prospérité. Proverbe 13, 9, 20, 20, 24, 20. Aujourd'hui encore, chez les Bédouins, quand on dit que quelqu'un dort dans l'obscurité, cela veut dire qu'il est dans la misère. Je continue. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Proverbe 31, les versets 19 et 20. Elle fait coudre des habits pour les pauvres. Cette bienveillance explique la bénédiction divine qui repose sur sa maisonnée. Proverbe 11, verset 25. Je continue. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Proverbe 31, les versets 21 et 22. En Palestine, en été, les gens riches portent des habits de fin lin blanc et en hiver, des vêtements épais de laine aux teintes chaudes. Le seul moyen de chauffage utilisé est le brasero portatif. Jérémie 36, verset 22. Je continue. Son mari est connu aux portes de la ville, car il siège avec les responsables du pays. Proverbe 31, verset 23. Bien qu'elle soit entreprenante et compétente, cette femme noble respecte son mari et contribue à l'élévation de son statut. Proverbe 12, verset 4, aux yeux des responsables de la cité. Je continue. Elle tisse elle-même des habits, elle les vend. Elle fait des ceintures qu'elle livre aux Cananéens. Proverbe 31, verset 24. Elle trouve encore le temps de fabriquer des articles d'habillement qu'elle vend aux marchands ambulants phéniciens. Le peuple le plus commerçant de l'Antiquité. Je continue. La force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Proverbe 31, les versets 25 et 26. Rien de mesquin chez cette femme. Au contraire, aimable et généreuse, elle sème le bonheur partout où elle est. Je continue. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse et son mari aussi lui fait des éloges. Il y a bien des femmes qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Proverbe 31, les versets 27 à 29, comparé Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 9. À tout moment, elle sait ce que font ses serviteurs et ses enfants. Sa vie exemplaire suscite la louange de tous ses proches. Je continue. La grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Proverbe 31, verset 30. La beauté naturelle s'étiole et la louange qui porte sur l'apparence extérieure est éphémère. La seule valeur qui résiste à l'usure du temps est la crainte respectueuse de l'Éternel. C'est le fil conducteur du livre des Proverbes, chapitre 1er, verset 7, du début à la fin. Je finis le chapitre 31 et le livre des Proverbes. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Proverbe 31, verset 31. À l'entrée des villes se trouve une place qui est le lieu public par excellence où on partage les nouvelles. Les vertus de la femme idéale sont aussi celles qui sont exaltées par le livre des Proverbes et qui sont révérées Dieu, travailler, bien placer son argent, utiliser son temps judicieusement, prévoir pour l'avenir, aider les indigents, respecter son conjoint, exercer une influence positive sur les autres et donner des bons conseils. Voilà tout un programme pour vous et pour moi.